Il y a cet homme, un homme qui perd absolument tout du jour au lendemain. Vraiment tout, quoi.
C'est ça, la ruine totale.
Ouais, ses enfants périssent, ses richesses s'évaporent en un instant. Et puis, son corps est recouvert d'ulcères douloureux. Et là, ses meilleurs amis, qui sont d'ailleurs considérés comme les penseurs les plus brillants de leur époque, viennent s'asseoir à ses côtés.
Ils viennent le voir.
Ils le regardent dans les yeux et, après un très long silence, ils finissent par lui annoncer que, fondamentalement, c'est de sa faute.
C'est quand même terrible comme réaction.
Ah, mais complètement. Ils se disent qu'il a dû commettre une faute grave parce que, dans leur tête, l'univers punit toujours les coupables. Mais cet homme vient de leur prouver l'inverse, en fait. Il vient de démolir leur théorie avec l'arme la plus puissante qui soit, son intégrité, qui reste intacte même au fond du gouffre.
Exactement. Et c'est un point crucial.
Et c'est précisément sur cette scène de dévastation totale que s'ouvre notre exploration aujourd'hui, en ce samedi 25 juillet 2026. Je suis vraiment ravie de me lancer là-dedans parce que notre plongée du jour se concentre sur un ensemble de notes fascinantes. Ce sont les notes de la session 17 du Dr John Walton sur le livre de Job et plus particulièrement le chapitre 28.
Ce fameux chapitre, oui. Ce qu'on appelle souvent l'intermède de la sagesse.
C'est ça. Et le but de notre analyse aujourd'hui, c'est pas du tout de faire juste de l'histoire ancienne. C'est vraiment de voir comment ce texte précis, qui a été rédigé il y a des millénaires, vient détruire complètement notre conception humaine de la justice, de l'ordre cosmique et de la sagesse.
Ça retourne vraiment le cerveau, pour être honnête.
Mais oui, ça prend nos attentes les plus profondes sur la façon dont le monde est censé fonctionner. Et ça les retourne complètement. Bon, décortiquons un peu tout ça parce qu'il faut d'abord comprendre pourquoi les amis de Job se sont tus. On parle d'un silence de mort qui clôture la première grande partie du livre, là. Qu'est-ce qui vient de se passer, au juste, pour que ces érudits, ils n'aient plus un seul mot à dire ?
C'est vrai que ce silence, c'est probablement le moment le plus assourdissant de tout le texte, quoi. C'est pas juste qu'ils ont plus d'arguments de rhétorique. C'est vraiment tout un système de pensée, un véritable système d'exploitation de la réalité qui vient de crasher en direct.
Un crash total, ouais.
Complètement. Et les notes du Dr Walton sont très claires à ce sujet. Ses amis, c'était pas juste de mauvais consolateurs qui manquaient d'empathie. Ils incarnaient sur Terre l'argument cosmique de ce que le texte appelle l'adversaire, ou le challenger, qu'on voit au tout début de l'histoire.
Ah oui, le fameux pari cynique du début, c'est ça.
C'est
l'adversaire prétend que la politique de Dieu, qui consiste à bénir et protéger les gens justes, c'est en fait une erreur de management catastrophique.
C'est exactement l'idée, ouais. L'adversaire, son argument, c'est que ce système crée des hypocrites. En gros, si on est payé pour être bon, la bonté véritable, elle n'existe pas.
C'est juste de l'égoïsme utilitariste, quoi.
Voilà. Les amis de Job sont venus avec cette même logique, mais inversée. Ils se disent, si tu souffres, c'est que t'as pas été bon. La transaction a échoué.
C'est tellement culpabilisant.
C'est le mot. Mais Job, en refusant de maudire Dieu et en maintenant son intégrité alors qu'il n'avait plus absolument aucune bénédiction matérielle à protéger, il vient de prouver l'existence d'une chose incroyable, la justice désintéressée.
Donc il est resté droit sans rien attendre en retour.
Exactement. Et du coup, l'argument de l'adversaire est littéralement pulvérisé. Mais paradoxalement, cette victoire de Job, elle crée un vide psychologique terrifiant. Le principe de rétribution vient de s'effondrer.
Le fameux principe de rétribution. Tu sais, pour bien visualiser à quel point ce truc est ancré en nous, j'ai souvent l'impression que nous voyons l'univers comme une gigantesque machine, comme un distributeur automatique cosmique.
Oh, c'est une super métaphore, ça.
Oui, le fonctionnement est censé être simple. On insère une pièce, par exemple, une bonne action, un don à une association, de l'honnêteté au boulot. On appuie sur le bouton et paf, la machine nous distribue une bénédiction, la santé, la réussite, peu importe.
Ouais, on adore ce système.
Et inversement, si on insère un péché, la machine distribue un malheur. C'est prévisible. Mais ce qui est effrayant dans ce que Job vient de faire, c'est qu'il a officiellement prouvé que le distributeur automatique est en panne, ou pire, qu'il a jamais fonctionné comme ça.
C'est une excellente image, vraiment, parce que ça touche en plein cœur notre besoin psychologique de contrôle. Pourquoi est-ce qu'on aime tant cette machine distributrice ?
Parce que ça nous rassure.
Complètement. Ça nous donne l'illusion qu'on tient les rênes de notre destin. Si l'univers fonctionne vraiment comme ça, il suffit d'être irréprochable pour être à l'abri du chaos, quoi.
C'est un peu une police d'assurance existentielle, en fait.
Voilà, c'est exactement ça. Or, la démonstration de Job vient déchirer ce contrat d'assurance. Ses amis sont silencieux, non pas parce qu'ils ont tort, mais parce qu'ils sont terrifiés.
Ah oui, c'est la panique à bord, hein.
Exactement. Si la justice transactionnelle n'est pas le moteur de l'univers, alors sur quoi repose le cosmos? Si des gens bien peuvent tout perdre sans raison pénale, le monde devient soudainement illisible. Il devient chaotique et surtout très dangereux.
Ça donne le vertige, vraiment. On imagine très bien ces hommes assis dans la poussière, réalisant que les règles du jeu qu'ils ont étudiées toute leur vie sont fausses. Et c'est précisément dans ce vide étouffant que l'histoire prend un virage à 180 degrés.
Un virage très brutal même.
Ouais. Le débat théologique s'arrête net et le texte nous lance dans une description hyper détaillée de, et c'est très bizarre, l'industrie minière. Je dois avouer que la première fois qu'on lit ça, on se demande s'il manque pas des pages au manuscrit, quoi.
C'est clair. Le basculement est tellement brutal, mais il est d'une sophistication littéraire inouïe. Le docteur Walcon souligne un point d'analyse fondamental ici. Ce n'est plus Job qui parle.
Ah bon? C'est pas lui?
Non. Le chapitre 28 est une sorte d'entracte. C'est le narrateur qui suspend l'action. Il prend le micro, en quelque sorte, parce que les personnages sont dans une impasse totale.
Et il tourne en rond, quoi.
Voilà. Et les idées exprimées dans cette nouvelle section, elles correspondent pas du tout au discours précédent ou même futur de Job. Le narrateur intervient pour imposer un changement de paradigme massif, et pour faire ça, il utilise cette fameuse métaphore de la mine.
Et c'est fou parce que les 11 premiers versets, c'est un véritable hommage à la prouesse technologique de l'époque. Le narrateur décrit comment l'humain est capable de choses inconcevables. Il trouve l'or dans la roche, il suspend des hommes à des cordes au-dessus du vide dans des puits obscurs.
Ouais, la spéléologie de l'extrême avant l'heure.
C'est ça! Il taille des galeries dans le silex, il repousse littéralement les frontières des ténèbres pour ramener des choses cachées à la lumière. Le texte dit même qu'il déplace des montagnes par la racine. C'est vraiment le triomphe absolu de l'ingéniosité humaine. Mais l'ironie, et c'est là que ça fait mal, c'est qu'aussitôt après, à partir du verset 12, on prend un mur.
Ah oui, c'est un mur d'incompréhension.
En gros, l'être humain peut creuser la croûte terrestre et dompter la nature tant qu'il veut, mais il ne peut absolument pas creuser pour trouver des réponses à la question du sens.
Et ce qui est fascinant ici, c'est la distinction très nette que le texte établit entre l'objet de la recherche humaine, ce qu'on peut accomplir, et la source véritable des choses.
La vraie sagesse, quoi.
Voilà. Le narrateur contemple toutes ces merveilles de l'ingénierie, et ensuite il pose une question rhétorique qui fait froid dans le dos. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Et la conclusion est sans appel.
Elle est introuvable.
Exactement. L'humain a beau éventrer la terre, fouiller les océans, peser tout l'or d'Ophir ou rassembler tous les saphirs du monde, il peut ni acheter ni excaver la sagesse. Elle n'est pas un élément naturel. Elle est totalement inaccessible à l'effort, à l'intellect ou à la technologie humaine.
Et ça, franchement, c'est un coup dur pour l'ego humain. Surtout aujourd'hui et à notre époque. Hein. On se dit souvent qu'avec assez de données, assez d'algorithmes ou assez de recherches scientifiques, on finira bien par craquer le code de la souffrance ou comprendre le fonctionnement de l'univers de A à Z.
Oui, on a cette illusion de toute puissance.
Mais complètement. On pense que la sagesse, c'est juste une information cachée qu'on n'a pas encore trouvée. Mais la source textuelle dit exactement l'inverse. C'est pas une question d'effort ou de données. Le verset 20 et la suite, d'ailleurs, affirment que seul Dieu en connaît le chemin.
C'est le point central de ce chapitre, ouais.
Mais du coup, si la sagesse, elle n'est pas sous terre, quel est exactement son rôle cosmique ? C'est là que les notes d'analyse nous emmènent vers une conclusion qui, franchement, moi, elle me dérange un peu.
Elle dérange profondément, c'est normal, parce qu'elle touche à l'architecture même de la création. Faut se rappeler que, depuis le début du livre, Job et ses amis partagent une prémisse commune, malgré leurs gros désaccords.
Laquelle ?
Ils sont tous convaincus que le cosmos a été ordonné par le principe de la justice. Pour eux, l'univers, c'est une salle d'audience géante, et l'ordre consiste à ce que le juge donne les bonnes sentences. Les gentils sont récompensés, les méchants punis.
Le distributeur automatique encore ?
Voilà, toujours. Mais le narrateur, au verset 27, il révèle un secret de fabrication cosmique ahurissant. Il nous ramène carrément au moment de la création et il déclare que Dieu a sondé, évalué et confirmé une chose très précise pour fonder le monde. Et c'est là le choc, ce n'était pas la justice.
C'était quoi alors ?
C'était la sagesse. Dieu a approuvé et structuré la création sur le critère de la sagesse et non de la justice humaine.
Alors là, attends, je t'arrête tout de suite, parce que c'est le moment où mon cerveau, et probablement celui de tous ceux qui nous écoutent, fait un blocage total. Dieu fonde le monde sur la sagesse et non sur la justice.
Je sais, c'est difficile à avaler.
Mais oui, notre besoin de justice, il est viscéral, quoi. C'est le fondement de nos sociétés. Quand on voit une personne innocente ruinée, ou pire, un enfant malade, notre instinct crie à l'injustice, on est censé comprendre quoi, là? Que la justice, elle n'a aucune importance pour Dieu? Que l'univers s'en fiche complètement?
C'est la réaction la plus naturelle du monde face à ce texte. Et c'est bien normal, l'injustice nous révolte et c'est hyper sain. Mais il faut comprendre ce que le texte essaie de déconstruire ici. Les notes du docteur Walton abordent ce point avec beaucoup de nuances. Hein.
Qu'est-ce qu'il dit exactement?
Il dit que le problème, c'est notre définition humaine de la justice. Quand on dit « Dieu doit être juste », on sous-entend souvent, sans même s'en rendre compte, que la justice est une loi cosmique supérieure à laquelle même Dieu devrait se plier.
Ah, je vois. Comme s'il y avait un code pénal universel au-dessus de sa tête, et que nous, humains, on était capables de juger s'il l'applique bien ou mal.
C'est exactement ça. En exigeant que Dieu respecte notre fameux distributeur automatique cosmique, on ne place finalement sur le banc des accusés et on s'improvise juge.
C'est vrai que, vu comme ça, on inverse carrément les rôles.
Complètement. Et cela soulève une question cruciale sur la nature même de la divinité. Dieu, il n'est pas soumis à la justice ou à la sagesse, il est la source de ces choses. Les adjectifs que nous, on utilise, juste, bon, sage, ils prennent leur véritable sens en lui, et non l'inverse.
D'accord, donc on ne peut pas le mesurer avec notre petite règle.
Voilà, l'univers n'a pas été fondé comme un tribunal avec un ordre strictement justicier et transactionnel. Il a été fondé comme une création infiniment complexe, ordonné par une sagesse qui nous dépasse totalement. C'est un écosystème géant, hein, pas un tableau Excel de récompense et de punition.
Un écosystème géant, j'aime bien cette idée.
Et cet ordre fondé sur la sagesse, c'est lui qui garantit que la création fonctionne et se maintient. Même si de notre point de vue, qui est microscopique et limité, dans notre quotidien, cet ordre n'est ni observable ni compréhensible.
C'est vertigineux de réaliser à quel point nous appliquons des grilles de lecture humaines qui sont ultra restreintes à un fonctionnement infiniment vaste, quoi.
C'est très vrai.
Mais du coup, ça crée un autre problème majeur.
Lequel?
Si cette sagesse est le véritable système d'exploitation de l'univers, et si on vient de dire qu'on ne peut ni l'excaver au fond d'une mine, ni l'acheter, ni la comprendre avec notre cerveau, comment l'être humain est-il censé s'y connecter?
C'est la grande question, oui.
Est-ce qu'on est juste condamné à subir un système incompréhensible en espérant le meilleur, le bras croisé?
Heureusement, non. Et c'est là qu'intervient le point culminant du chapitre, au verset 28. Après avoir exploré toutes les profondeurs de la Terre et l'immensité de la création, le narrateur y ramène la focale sur l'être humain, qui est désigné par le terme hébreu Adam.
D'accord.
Et là, une instruction très spécifique est donnée. C'est la seule voie d'accès. Le texte dit « La crainte du Seigneur, c'est la sagesse, et s'éloigner du mal, c'est l'intelligence ».
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant du point de vue de l'analyse linguistique. Le docteur Walton, dans ses notes, il insiste sur le fait qu'il n'y a pas un seul mot laissé au hasard ici.
Non, absolument aucun.
Dans notre source, il est mentionné que le texte original hébreu utilise un terme super précis pour « Seigneur ». Il utilise « Adonai ». Et ce qui est massif, vraiment, c'est énorme, c'est que c'est la seule et unique fois que ce mot apparaît dans tout le livre de Job.
Oui, un vrai apax. C'est exceptionnel.
L'auteur aurait très bien pu utiliser Yahvé, qui est hyper fréquent et qui évoque l'alliance, la proximité, la relation.
Tout à fait.
Ou il aurait pu utiliser Elohim, qui évoque plutôt la puissance créatrice de Dieu. Mais non, il choisit Adonai. Pourquoi cette exception linguistique? Qu'est-ce que ce terme transporte de si particulier?
Ce choix, il est d'une précision chirurgicale. Comme tu le dis, c'est la seule occurrence dans le livre. Mais il y a plus fort encore, c'est Dieu lui-même qui parle ici. L'introduction du verset précise « Il a dit à l'humanité ». Et nulle part ailleurs dans l'Ancien Testament, Dieu ne s'auto-désigne uniquement par le titre d'Adonai sans y accoler un autre de ses noms.
C'est du jamais vu, quoi.
Voilà. Et le terme Adonai y porte en lui une signification sociale et relationnelle très forte. Il signifie « maître » ou « souverain ». Il met vraiment en évidence la notion d'autorité absolue et la hiérarchie.
Donc, le texte passe d'un dieu juge qui gère gentiment le distributeur automatique à un dieu maître qui exige la soumission.
C'est un peu l'idée, oui.
Je t'avoue que quand on combine l'idée de maître absolu avec le mot crainte, la crainte d'Adonai, on a vite l'impression d'être face au portrait d'un tyran cosmique.
Je comprends tout à fait pourquoi on ressent ça.
Parce qu'aujourd'hui, craindre un maître, c'est trembler de terreur en attendant le prochain coup de fouet, quoi. Surtout si ce maître n'est même pas tenu de respecter notre définition de la justice. C'est super angoissant, non?
C'est vrai que c'est angoissant. mais c'est une confusion très moderne, qui est surtout liée à l'évolution de notre vocabulaire. L'analyse du docteur Walton, elle est lumineuse sur ce point, parce qu'il choisit d'expliquer ce qu'est la crainte de Dieu en définissant ce qu'elle n'est pas.
Ah, la méthode des contraires.
Voilà, et c'est brillant. Craindre Dieu, ce n'est absolument pas de la terreur panique, ça c'est un despote imprévisible.
Alors, qu'est-ce que c'est du coup? Quels sont ces fameux contraires?
Eh bien, réfléchissons. Si on ne craint pas Dieu au sens biblique, comment est-ce qu'on se comporte?
Bonne question.
Soit on le considère comme détaché et lointain, et donc on l'ignore complètement, soit on le voit comme incompétent, incapable de bien gérer le monde, ce qui justifie notre mépris ou notre arrogance envers lui.
Ouais, on se croit plus malin.
C'est ça. On peut aussi le penser limité, impuissant, et s'en moquer. On peut même le croire corrompu, mesquin, genre il agit par favoritisme pur. Par conséquent, la crainte d'Adonai, c'est exactement l'inverse de toutes ses attitudes.
D'accord, je commence à cerner le truc.
C'est le prendre totalement au sérieux. C'est reconnaître son autorité absolue sans chercher à la contourner ni essayer de lui donner des conseils sur comment gérer l'univers.
C'est refuser de le réduire à un manager défaillant qu'on devrait sans cesse recadrer, quoi, juste parce qu'il n'a pas récompensé nos bonnes actions comme on le voulait avec la machine.
C'est tout à fait ça. Craindre le maître, c'est reconnaître notre vraie place dans la structure de l'univers. On n'est pas les concepteurs du système et on n'a pas accès au code source de la sagesse cosmique.
Ça demande une sacrée dose d'humilité.
Ah bah oui, ça demande une confiance radicale en son autorité. Et d'ailleurs, le verset ne s'arrête pas à une simple posture intellectuelle. Il ajoute un volet très concret, qui est « s'éloigner du mal ».
L'exhortation éthique, c'est fascinant, parce qu'on aurait pu s'attendre, après une telle révélation sur l'inaccessibilité de la sagesse, à une demande d'observance religieuse hyper stricte.
Oui, des rituels compliqués.
Voilà, un truc du genre « bon, puisque vous ne comprenez rien, multipliez les sacrifices d'animaux, brûlez de l'encens tous les jours à midi tapante et chantez des cantiques parfaits pour apaiser le grand maître. »
C'est souvent ce que les religions proposent d'ailleurs.
Mais là, pas du tout. Le texte demande une posture morale active, s'éloigner du mal, dans le quotidien, dans les affaires, dans les relations de tous les jours. C'est extrêmement terre à terre en fait.
Absolument. Et si l'on relie cela à une perspective plus large, ce volet éthique prouve que la véritable sagesse a des conséquences directes sur la manière dont on vit, même quand on ne comprend pas du tout pourquoi on souffre.
C'est par nos actions qu'on montre notre confiance, en somme.
Exactement. L'être humain prouve qu'il prend l'autorité d'Adonai au sérieux, non pas en tentant de déchiffrer les mystères célestes comme un philosophe, mais en se comportant de manière droite sur Terre.
Et c'est vraiment ce qui nous amène à la question de l'application pratique de cette exploration vertigineuse. Parce qu'il ne faut pas oublier le décor de départ. Le livre de Job, ce n'est pas un traité de philosophie abstraite qu'on discute au chaud dans un salon avec un thé à la main.
Ah non, on est loin du salon de thé.
C'est l'histoire d'un type qui gratte ses plaies purulentes avec un tesson de poterie, assis sur un tas de cendres, et qui est entouré par le jugement glacial de ses soi-disant amis. Donc, nous venons de déconstruire le principe de justice humaine, strict, on a localisé la fondation du monde dans la sagesse divine, et on a compris l'importance de l'autorité. Mais concrètement, quand la vie s'effondre pour quelqu'un qui a toujours bien agi, qu'est-ce que tout ça signifie? Comment on peut aider cette personne à tenir debout avec de tels concepts?
Eh bien, c'est le cœur même de la question que pose le défi de Job. La fonction rhétorique de ce chapitre 28 dans l'ensemble du livre, comme l'explique très bien notre source, c'est de préparer le terrain.
Préparer le terrain pour quoi, Sam?
On passe de la question initiale « La justice désintéressée existe-t-elle » à un problème encore plus lourd, qui est « Peut-il y avoir une cohérence dans l'univers quand les justes souffrent ?» Et la réponse du texte, elle est dure à avaler. La cohérence, elle apparaîtra pas en donnant à l'humain le contrôle des explications.
Autrement dit, le but, c'est pas d'imprimer un rapport détaillé qui expliquerait « bon bah voilà pourquoi t'as eu cet accident » ou « voici la raison cosmique pour laquelle t'as perdu ton emploi ».
Non, car les attentes humaines, notre soif de justice transactionnelle, ça ne dictera jamais la marche de l'univers. C'est la sagesse de Dieu qui prévaut. Un point, c'est tout.
C'est radical.
Oui, dans les circonstances d'une confusion totale, de douleur aiguë ou d'injustice apparente, exprimer la crainte d'Adonai, c'est faire un acte de confiance radical.
Ça demande d'accepter l'inconnu, en fait.
Complètement. C'est accepter qu'il n'y ait pour nous aucune explication immédiate disponible. C'est maintenir la certitude que sa nature est fondamentalement juste, même quand on voit aucune trace de justice autour de nous.
C'est pas facile tous les jours, ça.
Non, c'est la chose la plus dure au monde. C'est s'accrocher à l'idée qu'il a établi le système avec la plus grande sagesse possible. Même si nous, on évolue dans un monde brisé où on subit de plein fouet les failles de ce système. Ce que la théologie appelle d'ailleurs les effets de la chute.
J'aime beaucoup l'image que cela me renvoie. On a souvent l'impression que la religion, ou même la philosophie, elle devrait nous fournir une carte routière extrêmement détaillée de la vie.
Oui, on veut tous un GPS existentiel.
C'est ça. Une carte avec chaque épreuve bien marquée dessus, avec une croix rouge, et une petite légende sur le côté qui explique « détour douloureux nécessaire pour acquérir de la patience » ou alors « avalanche tragique prévue à telle date pour inspirer votre entourage ».
Ce serait tellement plus rassurant.
Bah oui, on veut cette carte pour comprendre chaque recoin du paysage. Mais ce texte ne nous donne aucune carte. En réalité, il nous met une boussole dans la main.
La métaphore de la boussole est parfaite. C'est vraiment ça. Une boussole, ça vous explique pas pourquoi il y a une montagne infranchissable devant vous, ni pourquoi la forêt est plongée dans un brouillard épais.
Elle donne pas le pourquoi.
Non, elle vous indique simplement où se trouve le nord, pour vous permettre de continuer à avancer un pas après l'autre. La sagesse, décrite dans ce texte, elle n'apporte pas l'ordre et la cohérence en dissipant le brouillard du chaos ou en justifiant chaque douleur par une équation logique parfaite.
Elle fait quoi alors ?
Elle apporte la cohérence en nous ancrant profondément dans la relation avec le Créateur. Seul Adonai possède l'image complète de la tapisserie cosmique. Du côté humain, nous, on voit que l'arrière de la tapisserie.
Ah ouais, l'arrière avec tous les fils qui pendent.
Voilà. C'est un enchevêtrement de fils désordonnés, c'est plein de nœuds, il y a des couleurs qui jurent, c'est laid et chaotique. Notre besoin désespéré de cohérence n'est pas résolu en obtenant la permission de passer de l'autre côté pour voir le devant de la tapisserie. Il est résolu par la confiance inébranlable en celui qui la tisse.
C'est une révolution complète de notre logiciel interne, honnêtement. Si on rassemble toutes les pièces du puzzle que nous avons examiné aujourd'hui, on comprend que la justice transactionnelle, notre fameux distributeur automatique, c'est une illusion.
Une illusion rassurante, certes, mais fausse.
Totalement fausse. Le véritable fondement de la réalité, c'est pas ce principe de rétribution, c'est la sagesse de Dieu. Et on ne force pas l'accès à cette sagesse avec des pioches métaphoriques, avec un acharnement intellectuel ou en tapant du poing sur la table en exigeant de voir le directeur du cosmos. L'accès, il passe par une soumission confiante au maître.
C'est le seul chemin proposé par le texte, oui.
Et pour toutes les personnes qui nous écoutent et qui traversent peut-être une de ces nuits noires de l'âme, tu sais, une période où la souffrance semble non seulement injuste mais complètement gratuite et absurde, il y a ici une perspective foudroyante. L'obsession humaine qui consiste à chercher frénétiquement le « pourquoi », cette quête éperdue pour trouver la faute qu'on aurait soi-disant commise ou la leçon cosmique qu'on devrait apprendre, c'est peut-être au final un piège.
Un piège qui nous épuise en plus.
Mais oui, ça épuise, ça rajoute juste de la culpabilité à la douleur. La véritable démarche qui est proposée par ce texte millénaire, c'est celle de l'ancrage. Trouver son équilibre en s'en remettant à la source de toute sagesse. Même, et j'ai envie de dire surtout, quand le silence est terrifiant.
C'est une démarche très libératrice au fond.
Il est fascinant de voir à quel point un texte si ancien peut heurter de front notre psychologie moderne. Et on peut se demander si la sagesse insondable de Dieu est bel et bien le principe directeur de l'univers, bien au-delà de nos tribunaux humains ou de nos petites équations de cause à effet. Et dans quelle mesure le fait de renoncer purement et simplement à notre droit, qu'on juge légitime, d'avoir une explication juste, pourrait-il être la vraie clé ?
C'est une excellente question pour conclure.
Est-il possible que d'arrêter de donner des coups de pied dans le distributeur automatique qui refuse de nous répondre, et d'arrêter de creuser à s'en faire saigner les mains pour trouver un sens caché, ce soit le seul véritable moyen de trouver une paix profonde lorsque le monde s'effondre. C'est une idée inconfortable, c'est sûr, mais qui a le mérite de bouleverser absolument toutes nos certitudes.
Ça laisse vraiment de quoi méditer.
C'est clair. Et c'est sur ces réflexions vertigineuses que s'achève notre exploration de ce monument textuel. Il y a encore tant de couches à découvrir, mais le changement de paradigme, il est déjà colossal. Il est l'heure de refermer ce chapitre, de laisser résonner ces questions complexes, et on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle analyse en profondeur de sources qui défient nos évidences. Gardez l'esprit grand ouvert, encre.